les jardinières.
À nouveau samedi matin ensemble chez les jardinières. On va parler aujourd'hui de couleurs au jardin. Mais il n'y a pas que les fleurs qui mettent de la couleur dans notre vie. Il y a aussi Mylène. Bonjour Mylène.
Oh là là, quel accueil, quel accueil. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Noélie.
Ce matin, on a le plaisir de recevoir Olivier Ribaud. Bonjour Olivier.
Et bonjour à vous aussi.
Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste à Porrentruy et propriétaire d'Olivier Pépiniériste. Merci d'être avec nous ce matin.
On jette un œil curieux sur ces fleurs à la floraison si précoce qu'elles semblent ignorer l'hiver. Soyez les bienvenus chez les jardinières. On est ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Olivier, quand on pense à février dans nos jardins, on imagine souvent un jardin encore un peu gris ou sous le froid. On reviendra sur les fleurs plus tard dans l'émission. Mais quelles autres plantes ou alors des arbres commencent déjà à s'éveiller maintenant ?
Oui, alors c'était une bonne question parce que c'est vrai que les jardins, il faut les laisser encore un petit peu de côté pour le moment parce que, bien, comme on l'a tous remarqué, on est dans une période encore très très mouillée. Par contre, aller se balader et voir déjà apparaître des arbustes qui commencent de fleurir, j'en ai plusieurs à vous citer, mais notamment le premier qui commence vraiment de percer la couleur, c'est le bois joli qu'on trouve encore un petit peu à l'état sauvage. C'est vraiment assez rare, donc ça fait des belles balades en forêt pour en retrouver. Et bien sûr, on a aussi d'autres arbustes à fleurs comme la viorne d'hiver qui est maintenant fleurie. Elle n'est pas droit en pleine floraison, mais on voit très bien qu'elle est rose et qu'elle est déjà en fleurs. Donc c'est un bel arbuste qu'on met beaucoup dans des haies. Et notamment aussi le cornouiller mâle qui est un bouton qui les premiers pétales sont en train de sortir d'une couleur jaune. Donc ce sont vraiment les trois premiers arbustes qui sont très intéressants au niveau de la floraison. Sans oublier, bien sûr, il y a un arbuste qu'on plante un peu dans des jardins d'ornement parce que c'est un arbuste un petit peu moins indigène, c'est l'Amamélis mollis. C'est un arbuste qui fleurit jaune. On a eu un petit peu des dérivés qui ont été sélectionnés ces dernières années et on trouve des Amamélis maintenant orange. Donc c'est vraiment des couleurs qui sont très vives, très puissantes quand on les retrouve dans un jardin ou à l'entrée d'une maison et qui sont vraiment de floraison intense parce qu'ils n'ont que les fleurs, donc ils n'ont pas les feuilles. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressort dans un massif devant une porte d'entrée.
Et la couleur, ça fait du bien en cette saison. Merci Olivier, vous restez avec nous jusqu'à 8h. Dans la deuxième partie de notre émission, vous répondrez aux questions de nos auditeurs avec toujours trois possibilités pour nous joindre par téléphone au 0900 70 20 20, et vous parlerez directement à Olivier. Vous pouvez aussi nous écrire via les formulaires sur notre site ou alors simplement nous envoyer un SMS. Vous tapez le mot jardin, un espace, votre nom, votre question, votre nom, vous nous l'envoyez au 939.
Dans quelques instants, on entre dans le vif du sujet, les fleurs qui bravent la fin d'hiver et annoncent le printemps.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy. On s'intéresse aux fleurs de printemps ce matin. Et pour commencer, on va parler des bien connus perce-neige.
Et oui, ces délicates fleurs blanches qui percent la terre encore froide pour offrir leurs clochettes et annoncer le retour des beaux jours. Alors Olivier, qu'est-ce qui rend ces plantes capables de fleurir malgré le froid ?
Alors tu l'as bien précisé, le mot perce-neige, je poserai aussi une question moi envers vous, parce que pourquoi on les appelle les perce-neiges ?
Ben parce qu'elles percent la neige.
La neige.
Et... Alors voilà la subtilité de cette petite plante qui est très connue parce qu'elle est très belle avec ses clochettes, comme tu le dis, c'est qu'elle a une capacité, c'était fait prouver des recherches au niveau des végétaux, elle a une capacité de dégager par son feuillage un peu de chaleur. Ça ne veut pas dire que si on va la toucher, on va sentir du chaud, mais c'est une plante qui est capable d'émettre de la chaleur par son feuillage et de faire fondre la neige par le dessous, en fait, pour justement percer la neige, pour pouvoir faire sortir sa fleur. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de se balader où c'est qu'il y a encore un peu de neige, et puis tout d'un coup, voir apparaître juste la fleur, même pas les feuilles, juste la fleur qui sort de la neige. Donc c'est vraiment un phénomène particulier à cette plante, et puis je trouve le thème de l'émission intéressant parce que c'est vrai que quand on voit juste ces clochettes ressortir, ça donne une envie de savoir pourquoi.
Merci pour ces explications Olivier. On va parler de la Nivéole de printemps, parfois surnommée Claudinette. Alors c'est une cousine des perce-neige mais avec quelques différences quand même, lesquelles ?
Oui, alors justement, ça va être un petit peu compliqué, je vais essayer d'être très clair, mais entre la persneige et la nivéole, c'est deux plantes qui se ressemblent énormément. Donc la persneige, c'est une clochette qui sera un peu plus grande, la fleur sera plus grande, elle va être plutôt dressée sur la tige, donc elle va, le côté de la fleur sera plutôt vers le haut, sur le côté, et elle est vraiment d'un grand blanc et il n'y aura qu'une seule fleur par tige. Si on prend la nivéole, c'est aussi une clochette, mais qui aura toujours la fleur, la tête, je dirais, contre le bas. Et cette clochette qui est contre le bas, elle est plus petite, et puis elle est blanche, mais il y aura plusieurs fleurs sur le long de la tige, ce qui arrive assez souvent. Il peut y en avoir qu'une, mais il peut y en avoir deux ou trois sur une tige. Et puis après, il y a une grosse différence entre ces deux clochettes, donc de ces deux fleurs, c'est que la persneige, elle a six tépales qui ne sont pas réguliers. Il y en a trois qui sont plus grands sur les extérieurs et trois qui sont plus petits à l'intérieur. Que la nivéole, elle a ces six tépales qui sont vraiment très réguliers. Ça veut dire que ça fait vraiment une clochette comme une robe de mariée qui va être tous à la même hauteur. Et puis, sur le bout de ces tépales, ils sont une petite tache verte tendre. Elles sont vraiment marquées, ces tépales, elles ont toutes ces taches vertes sur les nivéoles. Donc, c'est vrai que c'est difficile à les reconnaître, mais si on observe un peu, on en défait quelques-unes, on voit très bien la différence. La plus grosse différence, c'est vraiment la grandeur. Mais sinon, ceux qui ont vraiment des nivéoles, comme tu le dis, c'est vraiment des claudinettes. C'est très intéressant parce que c'est très joli avec ces toutes petites taches vertes, vert tendre, vert fluo, comme ça, qui sont au bout de ces tépales et qui ça donne vraiment un petit cachet particulier à cette fleur de printemps.
7h, 8h, les jardinières.
Vous écoutez les jardinières et ce matin on parle de petites fleurs de printemps. Alors Olivier, vous nous avez parlé des persneiges, des nivéoles de printemps, de variétés qui ressemblent beaucoup. On va parler maintenant des crocus. Elles sont souvent considérées comme une des premières vraies fleurs de printemps. Qu'est-ce qui distingue ces floraisons très précoces des autres plantes printanières ?
Alors oui, c'est une floraison très printanière. On les voit sortir des pelouses, des fois au bord des routes, n'importe où, dans les jardins. Elles ressortent assez facilement des gazons qui sont devenus, par l'hiver et la neige, ils sont devenus très très courts. Ils sont redescendus, je dirais. Et ces fleurs vont ressortir. Alors qu'est-ce qui les différencie ? C'est que c'est un bulbe, donc déjà à l'origine, à la base, c'est ça qui fait que cette plante, elle a une réserve dans la terre de son oignon, comme on a toutes ces plantes au printemps. Et puis c'est ça qui fait que ce bulbe, eh bien, il va donner un peu de réserve et puis qui va faire que le crocus va sortir du sol pour donner cette floraison très très printanière. Le crocus est souvent utilisé dans des grands parcs, justement dans des grands jardins de grandes surfaces pour faire des tapis de couleurs. Ce qui est dommage, c'est que ça dure aussi assez pas très longtemps, c'est assez éphémère, mais on a aussi des très belles couleurs qui peuvent aller vraiment de... Maintenant, ça a été sélectionné dans des jaunes, des oranges, des violets. Il y a vraiment des couleurs très importantes. Donc, c'est une fleur qui est très intéressante, qu'on trouve très souvent au jour d'aujourd'hui.
Et on va parler d'une autre couleur, la violette odorante. C'est une autre petite merveille qui apparaît dès la fin de l'hiver, souvent dans des coins ombragés ou alors le long des haies. Une plante qui a bon goût, paraît-il. Comment on peut la cuisiner, Olivier ?
Oui, alors justement, il y a des plantes qui sont utilisées, je reviens un tout petit peu sur le crocus, on connaît le crocus, mais on connaît tous le safran. Le safran, c'est les étamines du crocus sativus, c'est une plante qu'on a trouvée, où c'est qu'il y avait ses potentiels. Alors la violette odorante, c'est pareil, c'est l'origine de la petite violette. Les violettes qu'on va trouver, les pensées qu'on va trouver dans nos jardins, ces prochains temps sur nos étals sont des violettes qui ont été améliorées. Donc ce qui est très intéressant dans cette plante, c'est qu'elle vient en fleur très vite au printemps. Elle est comestible au niveau des fleurs et des feuilles. Ça donne un petit coup acidulé qu'on va mélanger avec différentes autres salades. On va trouver même l'oxalis avec le temps, d'ici 15 jours, 3 semaines. C'est des plantes qui ont tous été avec une faculté d'avoir des racines ou des rhizomes rhizome. La violette, c'est plutôt un rhizome, une grande racine. L'oxalis, c'est plutôt un oignon. C'est des plantes qu'on fait un hivernage avec des réserves dans le sol. Et puis, ben, au printemps, quand elles éclosent, le feuillage donne souvent des goûts un peu particuliers parce qu'elles ont été longtemps au repos dans l'état naturel. Donc, ça peut être utilisé de plusieurs manières. Après, chacun y met un petit peu à sa cuisine.
Olivier, donc on peut se promener dans la nature, ramasser ces petites violettes et puis en faire un sirop, par exemple ?
Un sirop, bien sûr. J'ai aussi des gens qui les sèchent pour faire des petites décorations sur des salades. Cette violette odorante est très utilisée. Elle a aussi des vertus médicinales après qui peuvent être utilisées, qu'il faudrait un petit peu approfondir.
Les jardinières.
Vous êtes bien chez Les Jardinières, toujours avec Olivier Ribaud, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy. Ce matin, on parle de ces fleurs courageuses qui fleurissent dès février, hein, les persnèges, crocus, violettes, qui annoncent le printemps. Toutes ces explications seront à retrouver en podcast dans la matinée sur notre site. Mais on a encore quelques questions, hein, pour vous, Olivier, avant d'ouvrir le chapitre dédié à celles de nos auditeurs.
Mais on va déjà vous rappeler comment poser vos questions. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 0900 70 20 20. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question. Ça se passe sur le formulaire disponible sur notre site. Ou alors un SMS, vous tapez jardin suivi d'un espace de votre question, de votre nom. Et vous envoyez tout ça au 939.
Olivier, on va parler maintenant des jonquilles, souvent appelées narcisses, qui ajoutent une touche de couleur jaune dans les prairies, massifs ou alors les sous-bois. Pourquoi sont-elles si emblématiques du printemps ?
Alors justement, tu as bien précisé qu'on les appelle des jonquilles ou des narcisses. Le narcissus, c'est le nom latin en fait de la jonquille. On associe souvent le mot jonquille à toutes ces fleurs jaunes qu'on trouve même à l'état sauvage. Hein. On les trouve facilement encore dans différentes régions, dans les sous-bois. Par contre, le narcisse, qui est le narcisse blanc, on va l'appeler aussi un narcissus, mais un narcisse qu'on trouve dans nos régions en Haute-Ajoie, par exemple, qui sont très très protégés, qui sont dans des plans de repeuplement pour retrouver dans nos forêts, ce sont des plantes qui sont un peu plus rares, mais ça s'appelle un narcisse parce qu'il est blanc. Mais on a toujours dénominé une jonquille jaune par le mot jonquille. Mais justement, l'emblématique, c'est que c'est des plantes qui sont très faciles à retrouver parce que c'est au printemps quand la végétation n'est encore pas démarrée dans les arbres et les feuillus, donc on les voit sortir, on les voit fleurir, donc c'est vraiment une fleur qui est très populaire dans nos bois et puis qu'on trouve toujours assez facilement.
Olivier, certaines jonquilles ou crocus reviennent fidèlement chaque année pour notre plus grand plaisir, parfois même en se multipliant. Comment est-ce qu'on peut favoriser ce retour d'année en année ?
Eh bien justement, c'est quelque chose qu'il faut être conscient, c'est que pour qu'elles se reproduisent, on peut prendre quelques fleurs, ça c'est pas un problème, mais seulement vu que c'est un bulbe, le bulbe doit absolument se régénérer. Ça veut dire que une fois qu'il y a eu une fleur sur un bulbe, ce bulbe-là ne refleurira plus l'année suivante. Ce seront les petits bulbes qui viendront autour de ce bulbe de l'année qui vont refleurir 2 ans après. Donc c'est pour ça que quand ils sont posés dans des états naturels comme dans des forêts, eh bien justement naturellement ça se multiplie. Et on les retrouve chaque année. C'est comme quand on plante des bulbes dans notre jardin, eh bien, c'est justement de ne pas être obligé de bêcher ou de les enlever. C'est pas la même chose qu'avec les tulipes, mais c'est la jonquille, on va la laisser en place et elle va se multiplier naturellement.
Olivier, on trouve aussi des primes verts sauvages dans nos prairies, mais aussi beaucoup de variétés très colorées en jardinerie. Quelle est la différence entre ces primes verts horticoles et les espèces indigènes de chez nous ?
Et bien sûr, la prime verte horticole, c'est tout simplement une prime verte sauvage qui a été améliorée par l'humain. Donc on a eu depuis beaucoup, beaucoup d'années maintenant des sélections qui ont été faites, des croisements qui ont été faits. Mais tout ça est parti d'une prime verte tout à fait naturelle, sauvage, qu'on trouve dans ces jardins quand on voyage dans des villages ou des villes où c'est qu'il y a des anciennes maisons, on retrouve ces tapis de primevère au printemps qui souvent nous sont demandés, nous en pépinière ou en paysagiste, qu'on voudrait pouvoir les avoir aussi chez soi. C'est très difficile à réimplanter un tapis de primevère dans une maison parce qu'elles sont venues avec le temps, justement. Elles se sont implantées de manière naturelle avec le fait qu'elles se ressèment. Et il faut savoir que c'est très compliqué pour faire semer une graine de primevère, même pour nous en tant que professionnels. Il faut qu'il y ait des étapes de froid, il faut qu'il y ait des étapes de sombre. Elles germent dans la nuit, en fait. Donc, c'est pas facile. Et puis, en plus de ça, ces tapis de primevère sauvages, elles viennent dans des sols où c'est que c'est devenu très pauvre. On les voit aussi souvent ressortir juste de la mousse, par exemple. Maintenant, on commence de voir le feuillage qui est bien présent. Et puis, elles vont fleurir. Et on ne va pas trouver un tapis de primevère sur un gazon où c'est qu'on met un engrais chaque printemps, où c'est qu'il est entretenu, scarifié. Ça ne fonctionne pas. Donc, on ne peut pas avoir les deux. Donc, l'endroit sauvage d'une prairie qui est très ancienne, c'est là que ces primevères vont se développer.
Merci Olivier.
Par contre, après, celles qui ont été améliorées, bien sûr, eh bien, elles sont cultivées, semées, et mises en pot et qu'on retrouvera dans nos étals pour ce printemps.
Et toutes ces fleurs, elles sont jolies, mais elles sont aussi importantes pour les premiers butineurs, comme par exemple les abeilles sauvages. Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rôle écologique, biologique, souvent méconnu ?
Oui, justement, il ne faut pas penser qu'il n'y a que l'abeille qui donne le miel, hein, qui pollinise toutes les plantes et les fleurs. Il y a vraiment tout un système, un écosystème de petits insectes, de petites butineuses qui vont de fleur en fleur. Et dès qu'il y a des fleurs, mais les insectes, certains se déplacent déjà avant. Donc automatiquement, quand il y a une fleur, il y a du sucre, il y a une odeur, il y a quelque chose qui attire un insecte ou un autre. Et puis, c'est tous ces petits travailleurs qui vont polliniser ces fleurs et qui vont nous permettre d'année en année à avoir des graines pour favoriser des nouvelles fleurs et des nouvelles colonies de plantes. Donc c'est vrai que c'est toujours important d'observer, mais la vie des petits insectes est toujours aussi bien en hiver qu'en été active.
Merci beaucoup Olivier. Après une petite pause musicale, on va parler de la plantation de ces fleurs de printemps.
Les jardinières.
Ce matin, chez les jardinières, on parle de ces petites fleurs qui illuminent le printemps, qui arrivent en premier, comme les perce-neige, les crocus, les nivéoles ou encore les jonquilles. Olivier, toutes ces fleurs, est-ce qu'on peut les trouver en jardinerie pour les planter directement dans notre jardin, par exemple en pleine terre, pour avoir ce que vous parliez tout à l'heure, un tapis de primevère?
Voilà, oui, alors tout à fait, on peut les trouver dans toute jardinerie, dans tous les magasins. On trouve, à cette période, on va trouver toutes ces plantes déjà dans des pots. Même avant, on parlait un petit peu comme ça des muscaries, par exemple. C'est aussi encore une plante qui est devenue assez populaire parce qu'on a plusieurs coloris maintenant. Alors, on les retrouve facilement à planter. Elles sont déjà un petit peu en croissance. Par contre, on les trouve aussi après, à l'automne, au mois de septembre, pour être plantées, mises en terre, mises en plate-bande avant l'hiver. Ce qui est des fois beaucoup plus intéressant et puis moins onéreux, bien sûr, c'est de les trouver en bulbes, en oignons, qu'on va aller piquer avant l'hiver et puis qui vont se mettre en place dans ces plate-bandes de jardin chez soi pour le printemps.
Et puis ces plantes, ces fleurs de printemps, si on va se balader et qu'on les voit dans la nature, on a le droit de les cueillir? Certaines espèces oui, d'autres non?
Alors c'est très compliqué, non, on n'a pas le droit d'aller prélever dans nature les bulbes de fleurs sauvages. Par contre, vous avez le droit d'aller les prélever chez votre voisin, votre voisine. Ça c'est beaucoup
si vous
plus simple
vite.
Parce que vous allez, on va en trouver vraiment dans tous les jardins privés, bien sûr, de ces fameuses jonquilles, même des tulipes, je dirais, qu'on peut prélever dans sa famille, parce que c'est quelque chose qui peut être facilement arraché. On fera ça pas maintenant au printemps, on va faire ça plutôt en fin d'été, en début d'automne justement. On va prendre une bêche, on va sortir un morceau, on va diviser tout ça, on va retrouver tous ces petits oignons qu'on va replanter chez soi. Alors ça on peut. Dans la nature non, il n'est pas autorisé. Vous avez le droit en nature d'aller cueillir un bouquet de jonquilles ou un bouquet de narcisses. Il y a des lois qui sont bien précisées pour ça, mais on n'ose pas arracher les plantes. Dans le temps on avait ce qu'on appelait les cueilleurs qu'aller récolter des petits bouquets de jonquilles, des petits bouquets de muguet, des petits bouquets de toutes sortes qu'on peut trouver, de persneige aussi, qu'on trouvait en forêt et qui venaient les vendre sur les marchés. Ça fonctionnait. Il y a eu de l'abus, il y a eu des choses qui ont changé. On ne va plus retrouver ces cueilleurs sur les marchés parce qu'on trouve toutes ces fleurs sauvages qui ont été implantées dans nos jardins. Donc, je précise que si on veut trouver ça dans son propre jardin, on ira plutôt à la récolte chez des amis autour de chez soi.
Merci beaucoup Olivier pour toutes ces précisions. Et puis les fleurs, elles sont tellement plus belles à regarder quand elles sont dans leur état naturel. Mais ça, c'est mon idée. On attend vos questions au 0900 70 20 20 ou par SMS. Vous tapez jardin, espace, suivi de votre question, votre nom. Vous nous envoyez tout ça au 939 ou alors en remplissant simplement le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières. On se retrouve juste après un petit peu de musique.
7h, 8h, les jardinières.
En compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Port-en-Truy, ce matin dans les jardinières, on a parlé des fleurs de printemps. Vous pourrez retrouver l'émission podcast sur notre site dans le courant de la matinée. Mais pour l'heure, il est temps de passer aux questions que nos auditeurs et auditrices nous ont envoyées cette semaine avec une première question de Gérald, Mylène.
Oui, qui reste dans le thème, Gérald, puisqu'il nous parle de ses crocus qu'il a plantés en automne dernier et certains ont disparu. Et il se demande si c'est les rongeurs qui sont venus les grignoter ou s'il y a un autre problème.
Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des plantations des bulbes à l'automne. Alors, bien sûr, le rongeur en fait partie, qui va venir se servir pendant la période d'hiver. Mais c'est, mon avis, moins probable, parce que s'il aura des rongeurs, il va les voir, il y aura des taupinières ou des trous. Par contre, l'état du bulbe qu'on plante à l'automne, c'est toujours très important d'observer quand on achète des bulbes ou qu'on va récolter des bulbes. C'est pour ça que, comme on disait avant, d'aller arracher une motte de chez son voisin et puis diviser ses bulbes et puis en replanter, au bout de 1-2 ans, vous aurez de nouveau vite une colonisation nouvelle. C'est parce que le bulbe va rester frais. Si on achète des bulbes qui sont stockés puis qui ont été mal conservés, ce bulbe va se dessécher. Vous allez le planter puis il va pas avoir assez de force et assez de résistance pour justement pousser, faire de la racine et puis ressortir au printemps. On le voit assez souvent, malheureusement, que des fois le bulbe, il y en a un sur deux qui se dessèche. Donc ça peut être aussi très très important à observer. Et puis bien sûr après, il peut aussi avoir que quand on plante des bulbes dans des situations où c'est qu'il ne se plaît pas, parce qu'un oignon n'aime pas les terres et les terrains et les plates-bandes trop riches. Ce qui veut dire, c'est que si il a planté ça dans une plate-bande où c'est qu'il y a beaucoup d'humus, où c'est qu'il y avait beaucoup de fleurs, où c'est que ça poussait beaucoup, des fois ces bulbes n'aiment pas. C'est comme les oignons dans le jardin, on plante pas des oignons, c'est qu'on a mis du fumier l'année d'avant, parce que c'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'énergie, elle est faible en demande de nutrition, donc des fois ça peut arriver aussi à cause de ça.
Juste Olivier, vous avez parlé d'une mauvaise conservation du bulbe, nous dire rapidement comment on conserve un bulbe pour qu'il soit bien conservé.
Alors, je reviens assez souvent sur cette question en disant que si on veut replanter des bulbes, de le faire à l'automne, d'aller les récolter, de pouvoir les prendre là où il y a déjà des plantations de bulbes, et puis les diviser, les replanter tout de suite. Alors, c'est le plus simple. Par contre, après, si on doit les acheter, eh bien, ma foi, il faut être assez direct. Il faut les toucher, les tâter. S'ils sont trop mous, trop secs, eh bien, c'est que c'est un bulbe qui a déjà été desséché. Donc, faites attention quand vous achetez, on les voit. Il faut que ce bulbe soit encore bien, bien, bien grand et puis qu'on puisse être sûr d'avoir une qualité de fraîcheur.
Ce matin, dans les jardinières, on a vu que même en février, le jardin commence à se réveiller avec des fleurs qui bravent encore le froid pour annoncer le printemps. Merci Olivier pour toutes ces explications et toutes vos réponses.
Merci. On rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy. Juste en un mot, votre fleur de printemps préférée, Olivier ?
Ouh, il y en a beaucoup.
Non, en un mot.
Dans les bulbes, oui, le bois joli pour moi.
Le bois joli. Eh bien voilà, c'est noté. À bientôt Olivier, bon week-end, merci.
Merci à vous, bon week-end.
Et on se donne rendez-vous samedi prochain dès 7h pour une nouvelle émission des jardinières. Nous serons en compagnie de Rebecca Luchinger et Jordi Gonzalez du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. D'ici là, vous pouvez toujours nous faire parvenir vos questions en remplissant le formulaire sur notre site ou alors par SMS au 939. Bon week-end Mylène.
Bon week-end Noélie.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.